repas du Seigneur. À ouvrir votre Bible, où nous ferons trois lectures préliminaires. Voilà, la première se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 15. Première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Et puis nous allons aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 35. Marc, chapitre 10, verset 35, où il est dit, « Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. » Et puis dans le chapitre 15, toujours de l'évangile de Marc, au verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, Marc chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation, porter ces mots, le roi des Juifs. Amen. Voilà, dans ces trois passages successifs, il est question de trois coupes. D'abord, ce que l'apôtre Paul appellera la coupe de bénédiction, celle à laquelle nous participons lorsque nous prenons, comme nous le ferons tout à l'heure, le repas du Seigneur. Puis il y a cette deuxième coupe à laquelle Jésus fait allusion en réponse à ses disciples, Jacques et Jean, qui voulaient être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans la gloire, l'un premier ministre, l'autre ministre des Finances. Voilà, et Jésus leur dira, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et puis la troisième coupe, eh bien, c'est celle que l'on a présentée au Seigneur lorsqu'il fut crucifié, une espèce de mixture, un mélange de vin et de myrrhe, et l'Écriture nous dit qu'il a refusé de prendre cette coupe-là. Alors, nous allons essayer de voir ce matin que contiennent ces trois coupes et qu'est-ce qu'elles représentent pour nous Voilà, tout d'abord donc, la coupe de bénédiction, comme dit Paul dans la première aux Corinthiens. Voilà, c'est vrai que la coupe à laquelle nous participons, enfin maintenant ce n'est plus des coupes, c'est des coupelles, mais le symbole demeure, n'est-ce pas? C'est un signe de bénédiction parce que nous commémorons le sacrifice de Jésus qui est la seule source de notre salut. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes là ce matin uniquement parce que Christ vous a fait grâce? Et si quelqu'un n'avait pas encore saisi sa grâce, si tout ce que vous entendez, voyez, est pour vous un petit peu nouveau, sachez que le Seigneur vous tend les bras. Il désire vous accueillir, il désire pardonner vos péchés pour que vous ayez part à sa bénédiction, à sa bénédiction. Jésus, dans divers passages parallèles, lorsqu'il institue la Sainte-Cène, il dira à ses disciples, « Cette coupe, buvez-en tous, c'est la nouvelle alliance en mon sang. » La nouvelle alliance en mon sang. Et c'est vrai, en mettant notre foi en Jésus, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce qui vient succéder à l'ancienne alliance, c'est-à-dire celle de la loi que Dieu avait donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et l'Écriture, le Nouveau Testament, nous montre que cette nouvelle alliance, elle est bien supérieure dans les avantages qu'elle procure à l'ancienne alliance. Pourquoi? Pour trois raisons essentielles. D'abord, elle nous permet de bénéficier d'un héritage céleste. Vous voyez? Les Juifs, eux, ils avaient, en sortant d'Égypte, la promesse d'un héritage terrestre. Ils devaient aller dans le pays promis, le pays de Canaan, s'en emparer pour y jouir des bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. C'était le pays où coulait le lait et le miel. Mais nous, mes amis, notre héritage, il est céleste. Hein? Lorsque l'apôtre Paul termine sa vie, eh bien, il fait part de son assurance, de sa certitude, de son espérance, et il dit, « Il me sauvera, le Seigneur, pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre dira que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Et j'espère que vous gardez bien cela en mémoire, dans votre esprit, dans votre cœur, que vous êtes sauvés avant tout pour aller au ciel. Alléluia. Certes, le Seigneur nous bénit déjà, ici-bas, mais l'objectif suprême, c'est de rejoindre un jour la demeure paternelle et d'entrer dans le royaume des cieux. Cette nouvelle alliance, elle est supérieure également dans le sens que dans l'ancienne alliance, le souvenir des péchés était rappelé chaque année. Vous voyez, il y avait une fête annuelle que l'on appelait le jour des expiations, le Yom Kippour, et là, chaque année, on offrait les mêmes sacrifices et on revenait toujours et encore sur la question du péché. Mais, gloire à Dieu, par le sacrifice de Jésus, par son sang versé, désormais, les péchés sont définitivement et totalement effacés et pardonnés. Vous le croyez? Ben, vous faites bien, hein? Et le pouvoir purificateur du sang de Jésus, eh bien, a un effet constant. Et celui qui se repent et qui croit, il bénéficie du pouvoir purificateur et constant du sang de Jésus. Et si ce matin, quelqu'un, en s'approchant de la Sainte-Cène, réalise qu'il y a des choses qui n'ont pas été nettes, qui n'ont pas glorifié Dieu, si quelque erreur, quelque faute, allez, appelons les choses par leur nom, quelque péché a été commis, c'est le moment de dire, Seigneur, fais-moi grâce et purifie mon cœur, pardonne-moi encore, et il fera grâce, alléluia, parce qu'il est un Dieu de miséricorde, que son nom soit béni. Et puis, la nouvelle alliance, elle est supérieure dans le fait que, eh bien, autrefois, dans l'ancienne alliance, la loi était écrite où ça? Où est-ce qu'elle était écrite, la loi? Sur les tables de pierre, n'est-ce pas? Sur lesquelles Dieu a gravé de son propre doigt la liste des 10 commandements. Tandis qu'aujourd'hui, l'Écriture nous dit que dans cette nouvelle alliance, la loi divine, elle est gravée où ça? Dans notre cœur. Non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que désormais, voyez-vous, le Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous rend capables de vivre selon sa loi. Alléluia. Il nous rend capables de vivre selon sa loi. C'est vrai que lorsqu'on regarde la vie chrétienne, je dirais de l'extérieur, lorsqu'on n'a pas encore fait le pas de s'engager, de livrer sa vie au Seigneur, de se repentir, de mettre notre foi en lui, la vie chrétienne apparaît comme quelque chose d'extrêmement difficile, mais je n'y arriverai jamais. Les exigences de Dieu sont trop grandes et je me sens totalement incapable de lui obéir. Mais mes amis, quand on fait le pas, n'est-ce pas, eh bien on s'aperçoit que c'est Dieu qui, par son esprit, fait son œuvre en nous, oui ou non. C'est lui qui nous change, qui nous transforme. Bien sûr que nous avons journellement des progrès à faire, mais il a écrit sa loi dans notre cœur, et au fur et à mesure que nous avançons, il nous rend capables de vivre à la hauteur de ses exigences. L'Écriture dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car la victoire qui triomphe du monde, et on peut ajouter qu'il triomphe aussi de notre nature charnelle, c'est notre foi. Alléluia. Peut-être dans un domaine ou dans un autre, mon frère, mon sœur, tu es en lutte avec toi-même pour parvenir à obéir à Dieu, et tu sens qu'il y a là en toi une résistance. Eh bien, par la foi, le Seigneur, ce matin, te propose la victoire, gloire à Dieu. Il veut écrire par son doigt, par son esprit, par sa puissance, sa loi dans ton cœur pour que tu sois capable de vivre à la hauteur de cette loi divine. Donc, vous voyez, à tous ces égards, eh bien, la coupe à laquelle nous prenons part tout à l'heure, c'est une coupe de bénédiction. Amen. Une coupe de bénédiction. Certes, il faut s'en approcher avec beaucoup de respect, de solennité, réalisant que si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, le Seigneur le fera, et chacun est appelé à s'éprouver soi-même, mais participer au repas du Seigneur, ça n'est tout de même pas un épouvantail, c'est une occasion de bénédiction. Et il faut, n'est-ce pas, insister sur cela. Et puis, il y a la deuxième coupe. Alors, vous voyez, Jacques et Jean, Jésus les avait appelés Boanerges, les fils du tonnerre. Ils devaient avoir du caractère, ces deux-là. Hein? Mais le Seigneur les a façonnés, vous voyez. Il n'a pas ôté leur personnalité, mais il l'a, comment dire, modelé, façonné, pour que vraiment ils glorifient le Seigneur. Et eux qui étaient d'un naturel un peu bouillonnant, parfois excités, hein, ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains, le Seigneur en a fait, notamment de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Voilà. Alors, ils ont une ambition un peu déplacée quand même. Hein. Nous voudrions être dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Avoir la prééminence, participer au gouvernement. Vous voyez, ce n'est pas neuf, ça. Hein. Et le Seigneur Jésus a dit, mes amis, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'êtes pas conscient. Et il a posé cette question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et spontanément, Jacques et Jean ont répondu, oui, nous le pouvons. Je crois que quand ils ont dit oui, ils n'étaient pas pleinement conscients de tout ce que cela représentait. Mais malgré tout, il faut reconnaître que la coupe en question, ils l'ont bu. Parce que Jacques fut le premier apôtre, le premier des 12, à subir le martyre. Et puis l'apôtre Jean, on sait qu'il a été déporté sur les ordres de l'empereur romain, là-bas, à l'île de Patmos, voyez, dans un centre de détention où certainement ça n'était pas agréable. Alors, la coupe là dont il est question, c'est la coupe de la souffrance. C'est la coupe de la souffrance. La coupe de la souffrance à laquelle donc Jésus fait allusion en réponse à la revendication, à la demande de Jacques et de Jean. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe? Eh bien, on y trouve les souffrances, les peines, les désagréments que nous subissons ou que nous subirons parce que nous sommes disciples de Christ. Christ lui-même a bu à cette coupe durant sa vie terrestre. On peut dire même qu'il l'a bu jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie. Le prophète Ésaïe dira qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, lorsqu'on considère le parcours du Seigneur, on s'aperçoit que dès sa venue au monde, il a bu à la coupe de la souffrance. Tenez, regardez, il n'était même pas né encore. Hein? que, eh bien, on l'a relégué, sa maman et lui-même, n'est-ce pas, qui allaient être mis au monde, dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous voyez, c'était significatif de ce que les hommes allaient faire de ce Jésus de Nazareth qui n'était autre que le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. Et tout au long de sa vie, tout au long de son parcours et notamment de son ministère, il a dû affronter l'hostilité. L'hostilité. Parfois, les pharisiens prenaient des cailloux, des pierres pour les lui jeter à la figure. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. Mais Jésus, à plusieurs reprises, on a tenté de lui faire la peau, là, sur le champ, vous voyez, de le lapider. L'hostilité, le rejet. Il a affronté le mépris. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'a pas étudié dans les écoles rabbiniques. Et puis, il se mêle de nous enseigner, nous qui sommes des spécialistes de la loi, des scribes, des hommes éminents. Il a affronté la moquerie, la haine. Hein, la haine, c'est terrible. Moi, je suis stupéfait quand je vois que c'est tout de suite après la résurrection de Lazare que les autorités religieuses israélites ont décidé de le supprimer. Dites, devant ce miracle, ils auraient dû, s'ils avaient eu dessous d'honnêteté et d'intégrité morale, reconnaître que c'était lui le Messie. Mais non, suite à ce miracle, ils ont décidé à ce moment-là de le faire mourir. Il a affronté la haine, l'incompréhension, même de la part de sa propre famille. Vous avez noté ça? L'Écriture redit que les gens de sa famille disaient « Il est hors de sens !» Et ils sont venus pour se saisir de lui. Je ne sais pas si les hôpitaux psy existaient déjà à l'époque, mais ils voulaient le coller là-dedans. Il est hors de sens, il a perdu la raison. Voilà, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a dû rester dans son établi de charpentier, là, et puis ne pas se prendre pour un prophète. Hein? L'Écriture dit même que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Ça a changé par la suite. Mais dans un premier temps, vous voyez, hein? Si dans votre famille, vous avez des frères et des sœurs qui ne croient pas, qui ne partagent pas votre foi, qui peut-être vous ridiculisent, eh bien, vous êtes logé à la même enseigne que le Seigneur Jésus. Il a dû affronter la calomnie, les paroles mensongères, outrancières, la violence, la méchanceté. Oh, mes amis, la flagellation, c'est un supplice terrible. Parfois, ceux qui étaient flagellés, on n'avait même pas le temps de les crucifier, ils mouraient sous les coups auparavant. Ce n'était pas trois petits coups de, comment on appelait ça quand on était gamin, de martinet, là, hein. Hein? L'instrument utilisé pour la flagellation, c'était des lanières de cuir dans lesquelles étaient entrelacés des morceaux d'os ou de métal. Lorsque on vous frappait, quand on tirait, ça déchirait les chairs. Parfois, les organes intérieurs étaient mis à nu. C'est ça, la flagellation. Puis la crucifixion, c'est un supplice affreux. Hein? Jésus, là, pendant six longues heures, a été cloué, la violence, la méchanceté, la couronne d'épines que les soldats ont tressée et enfoncée sur sa tête, la jalousie, tout ça de la part de son peuple, tout ça de la part des leaders religieux israélites, de la part des Romains, et même de la part de ses disciples, tenez. Ah, l'abandon, pourtant la main sur le cœur. Ils avaient juré fidélité. Mais il y a ce verset terrible quelque part. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le reniement de Pierre. Ah, Pierre, Seigneur, s'il faut aller en prison, même à la mort avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je tiendrai le coup. On va voir ce qu'on va voir. On a vu, oui. À trois reprises, je ne connais pas cet homme. C'est terrible, ça. La dernière parole de Pierre que Jésus a entendue avant d'être crucifié, c'est « Je ne connais pas cet homme. » Imaginez, vous êtes sur le point de mourir, vous comptez sur le soutien un petit peu de quelqu'un qui vous est proche, et la dernière parole que vous entendez de lui, « Je ne le connais pas. » Quelle douleur, quelle souffrance. La trahison de Judas, c'est ça qu'il y a dans la coupe, hein? C'est ça. Et ce ne fut pas facile, même pour lui, de boire cette coupe. Croyez pas que Jésus a affronté tout ça, n'est-ce pas, avec des envoltures en disant « Ouais, on s'en sortira toujours. » Non, écoutez-le à Gethsémané. Il est dans l'agonie. Sa transpiration est transformée en grumeaux de sang qui tombent jusqu'à terre. Les médecins se sont penchés sur ce texte et ils en ont conclu que c'était un phénomène qui fait que sous un stress intense, les capillaires qui sont sous la peau éclatent et ils se mélangent à la transpiration. C'est ça que Jésus a vécu. Et dans sa prière, il s'exprime ainsi, « Si cette coupe là dont on parle, pouvait s'éloigner de moi !» Et tout de suite après, il ajoute, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ça, c'était la question que Jésus posait à Jacques et Jean. Vous savez quoi? Ce matin, il nous la pose. Êtes-vous prêt? Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Suis-je prêt à boire cette coupe? La coupe de la souffrance. Nous savons très bien que dans ce monde, il y a des chrétiens qui la boivent eux aussi jusqu'à la lie. Hein. Bon, ceux qui étaient là vendredi soir, je faisais part de cette statistique, que j'ai lue quelque part. Durant le XXe siècle, plus de chrétiens ont été martyrisés que dans les 19 siècles qui ont précédé. C'est-à-dire qu'entre la mort de Jésus et l'année 1900, il est mort un certain nombre de chrétiens qui ont subi le martyre. Voilà, en 2001, en gros. Eh bien, pendant le XXe siècle, plus sont morts que pendant les 19 siècles précédents. Et ça continue et ça dure. Mais même sans aller jusque-là, vous voyez, je voudrais vous dire ceci. Si vous menez une vie chrétienne médiocre, excusez-moi, mais ça peut être le cas, c'est-à-dire sans vous engager, sans vous consacrer à la cause du Seigneur pleinement, vous pourrez éviter de boire cette coupe. Et même, vous pourrez aller au ciel. Mais ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour vous. Mais si vous vous mettez à la disposition du Seigneur pour le servir, si vous vous impliquez, si vous vous engagez, si vous vous donnez, si vous dites « Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, mais elle t'appartient. Ce que tu me demanderas de faire, je suis prêt à le faire. Le service que tu placeras devant moi, je suis prêt à le réaliser, à l'accomplir. Ma vie est à disposition. » Alors là, si vous avez cet état d'esprit, cette coupe, vous la boirez. Vous la boirez. Vous subirez la critique du monde. On peut s'y attendre. Ce n'est pas toujours évident. Mais vous subirez même la critique de la part de vos frères et sœurs. Je vous avertis comme ça, vous ne serez pas surpris. Vous ne direz pas quand ça arrivera. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Je ne croyais pas que... Vous subirez la critique même quand vous vous serez efforcé de faire le maximum. Ah ben ça, c'est quelque chose. Mais ben oui, c'est la nature humaine, ça, mes amis. Et même parfois, la critique de ceux que vous aurez voulu servir. La critique de ceux que vous aurez voulu aimer en les servant, en mettant à leur disposition. Ne vous en étonnez pas. Quand ça arrive, dites-vous, ben, je suis en train de boire la coupe que tu as toi-même bu. C'est dans la coupe tout ça. C'est dans la coupe. Mais, voyez, aussi désagréable que puisse être le contenu de cette coupe, si nous acceptons de la boire, cela aura des effets positifs, des effets bénéfiques. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 10, il est question de Jésus et il est dit qu'il a été élevé à la perfection par les souffrances. Hébreux, chapitre 2, verset 10 et 11. Il fut élevé à la perfection par les souffrances. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, c'est une pensée similaire, au chapitre 5, au verset 8 et 9, il est dit toujours à propos de Jésus qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Attention, Jésus a toujours été parfait. Ok, on est d'accord. Il a toujours été obéissant. Mais au travers des souffrances qu'il a subies, son obéissance et sa perfection ont atteint le niveau maximal. Au travers des souffrances, il est devenu, si je puis dire, de plus en plus parfait et de plus en plus obéissant. Alléluia. Eh bien, pour nous, c'est l'effet que cette coupe aura si nous la buvons. Boire à cette coupe de la souffrance participe à notre perfectionnement. Si nous l'acceptons sans rechigner, sans regimber, mais docilement, humblement, voyez, ces souffrances que nous subirons, que nous traverserons, forgeront en nous un véritable caractère chrétien à la ressemblance de Christ. Parce que c'est ça le but que le Seigneur poursuit, mes amis. C'est pas qu'on soit choyé comme des petits bébés, n'est-ce pas, entourés des soins maternels, hein, et élevés dans du coton. Mais ce que Dieu vit, c'est pas notre confort, c'est notre perfectionnement spirituel. C'est notre progression. Et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est en passant par là, par ça, que nous parviendrons à, n'est-ce pas, cette véritable maturité spirituelle. Dieu veut former en nous un caractère chrétien, mais solide, bien trempé. Des hommes et des femmes de Dieu authentiques, des gens pleins d'assurance et pleins d'endurance qui sont capables, envers et contre tout, non par une énergie personnelle, par leur force de caractère, mais par la grâce de Dieu qui les pénètre, de tenir ferme, de tenir bon en toutes circonstances. Mais pour que ça se fasse, ce travail de formation, il faut boire à la coupe. Il faut boire à la coupe. Et puis Jésus aussi. Toujours en conséquence de cette coupe-là. Hébreux chapitre 12 et le verset 2 nous est dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix et qu'il a méprisé l'ignominie, la honte. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert, il a subi, il a accepté la croix et il a méprisé l'ignominie. Alors, quelle joie poursuivait-il Jésus en acceptant de passer par la croix et de passer par tout ce qui précédait la croix? Sa joie fut que son Père allait être glorifié. Alléluia! Parce qu'au travers du sacrifice de Christ et de tout ce qui a suivi, le Père a été glorifié. Amen! Sa joie, c'était de savoir que par le don de sa vie, des multitudes, et nous sommes de cela, gloire à Dieu, d'hommes et de femmes, allaient être sauvés. Et ce fut sa joie. Et la joie aussi qu'il éprouva, c'était de savoir qu'il participerait lui-même à la gloire dans le royaume céleste. Eh bien, mes amis, si nous buvons la coupe, nous connaîtrons les mêmes joies. Amen. Si nous réagissons de la bonne manière, Dieu sera glorifié en nous. Amen. Parce que c'est ça le but qu'il faut poursuivre, non? C'est pas que je sois bien, dorloté, comme je disais tout à l'heure, soyez béni. Mais le but en tant que chrétien que nous devons poursuivre, c'est que Dieu soit glorifié en nous. Le but que nous devons poursuivre, c'est que notre vie spirituelle soit par sa grâce rendue féconde et fructueuse. Alléluia. Et que ainsi nous-mêmes, nous puissions un jour participer à la gloire céleste. Et si nous acceptons de boire cette coupe de la souffrance, nous connaîtrons cette joie que Jésus lui-même a connue. Amen. Alors, la question, on la repose. Voulez-vous boire la coupe? Répondez pas trop vite. Amen. Amen. Réfléchissez un peu à ce qu'il y a dedans. Hein. Et puis, il y a la troisième coupe. Alors, voilà, les soldats romains qui ont procédé à la crucifixion du Seigneur ont présenté à Jésus ce breuvage, cette mixture du vin mêlé de myrrhe. Les historiens expliquent que ce mélange faisait office d'anesthésiant, voyez. Ça avait pour but un petit peu de rendre le crucifié un peu inconscient, est un peu, comment on dit vulgairement, dans le cirage, ce qui fait que, comme ça, les Romains, les soldats étaient plus tranquilles lorsqu'ils faisaient leur mauvais travail d'enfoncer les clous dans les mains, dans les pieds. Et c'était d'une saveur extrêmement amère. C'est pour ça que dans un passage parallèle, il est question d'un vin mêlé de fiel. Parce que vin plus myrrhe, eh bien, ça faisait un mélange extrêmement amer. Et vous avez remarqué que Jésus a refusé ce breuvage. Il a voulu, lui, rester parfaitement lucide. Et on peut dire, il a refusé la coupe de l'amertume. Voilà où nous voulons en venir. Les deux autres coupes, il y a participé. Mais celle-là, il l'a refusée. Et pour nous, il faut que ce soit pareil. Nous voulons participer à la coupe de bénédiction. Amen. Et nous devons accepter, après avoir réfléchi quand même, de boire à la coupe de la souffrance. Mais, la troisième coupe, celle-là, tout comme Jésus, il faut la refuser. Vous savez, quand nous subirons ou quand nous subissons l'injustice, que nous sommes maltraités, mal considérés, quand nous souffrirons pour la cause de Christ, le diable viendra et il nous tendra, il nous proposera cette coupe de l'amertume. Il va dire, t'as vu? T'as vu ce qu'il t'a dit? T'as vu ce qu'il t'a fait? Toi, tu lui as fait du bien? Toi, tu l'as servi, tu l'as aimé, tu l'as aidé. T'as vu comment il se comporte? T'as vu? Ah, tu crois pas que tu es en droit de lui en vouloir? Pas trop, mais au moins un petit peu quand même. Même un peu plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Quand il vient avec sa coupe, là. Est-ce qu'on se laisse pénétrer par ce breuvage infect? Ou alors, est-ce qu'on dit non? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, quelle qu'ait été sa réaction, même s'il a répondu au bien que j'ai voulu lui faire par le mal, je ne me laisserai pas pénétrer, Seigneur, avec ta grâce, par l'amertume. Quoi que ce soit que nous subissions, refusons. C'est un choix. Refusons de nous laisser remplir d'amertume, de ressentiment, de rancune et tout ce qui va avec. Ce sont des sentiments destructeurs qui nuisent à la qualité de notre vie spirituelle. Et au contraire, continuons en toutes circonstances et quelles que soient les difficultés rencontrées à manifester par le soutien, par le secours du Seigneur, l'Esprit de Christ. Qu'est-ce que c'est l'Esprit de Christ? C'est la patience. Amen. C'est le support. C'est le pardon. C'est la miséricorde. C'est la bonté. C'est la bienveillance. Non pas seulement à l'égard de ceux qui sont gentils envers nous, mais même envers les autres. Même envers ceux qui sont désagréables. Voilà. Ne devenons pas des gens aigris, cyniques, désabusés. Je ne veux pas devenir comme ça, moi. Voyez. Je connais des gens, des chrétiens, des croyants, qui arrivent à la fin de leur vie, mes amis. On dirait des cornichons dans un bocal de vinaigre. Ils sont remplis d'aigreur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Regardez ce qui est dit, tenez. dans Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Je ne sais pas si ça va s'afficher, vous pouvez le lire avec moi. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, hein, la coupe de l'amertume, que toute amertume, toute animosité, l'animosité c'est l'hostilité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. C'est pas difficile de faire ça si on se laisse aller, non? Ça vient tout seul, vous avez remarqué? Soyez, au contraire, quoi, bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, l'amertume semble nous empoisonner d'abord nous-mêmes, et puis quand ça boue dans la marmite, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde. Quand l'amertume, nous l'avons avalée, eh bien, elle se propage. Elle se propage autour de nous. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce conseil, cette exhortation vigoureuse du Seigneur. C'est pas au chapitre 12 et au verset 15 où il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ne nous laissons pas infecter par l'amertume et n'infectons pas les autres, mais que nous manifestions l'Esprit de Christ. Amen. Alors on va participer au repas du Seigneur là. On peut réfléchir à ces trois coupes, vous ne croyez pas? Merci Seigneur pour la coupe de bénédiction. Seigneur, avec le sentiment de ma faiblesse, je veux bien accepter de boire la coupe de la souffrance. Et puis, Seigneur, je veux te prier pour que tu m'aides constamment, toutes les forces nécessaires, à repousser, à rejeter la coupe de l'amertume. Amen. On prie le Seigneur ?